Orient Press, Kamel Jaider.
Bonjour et bienvenue sur RFI pour cette nouvelle édition d'Orient Press. Comme chaque samedi, nous allons passer ensemble en revue l'actualité de la semaine au Proche et au Moyen-Orient en compagnie de trois confrères. Dominique Lagarde de l'hebdomadaire L'Express, Pierre Rousselin du journal Le Figaro qui est en ligne avec nous et Toufik Ben Aïchouch de la rédaction de RFI.
Orient Press sur RFI.
Bonjour et merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Une grosse actualité cette semaine autour de cette région, à commencer par l'Assemblée générale de l'ONU, où le président iranien Mahmoud Ahmadinejad s'est encore distingué en se livrant notamment à un long réquisitoire contre l'état actuel du monde, reprenant à mot couvert le thème du complot sioniste. Et pourtant, l'Union européenne a estimé que le président iranien n'avait pas franchi la ligne rouge. Alors, une douzaine de délégations occidentales seulement a quitté la salle pour protester contre ce discours. Comment vous expliquez cela, Dominique Lagarde ?
Oh, moi, j'ai envie de dire que c'est un scénario bien rodé. Ahmadinejad fait de la provocation parce qu'il en a besoin pour des raisons de politique intérieure. Et finalement, moins il y a de gens qui sortent, si je puis dire, moins ça lui fait de la publicité.
Pierre Rousselin, sur la sortie timide des Occidentaux.
Effectivement, c'est pas nouveau les déclarations d'Ahmadinejad. Effectivement, peut-être que les gens sont habitués maintenant et que l'indignation a perdu de son importance. Mais je crois qu'il n'y a rien de nouveau et l'important n'est pas là. L'important, c'est ce qui va se passer sur le plan des sanctions éventuelles le jour où l'Iran reviendra aux négociations le 1er octobre.
Oui, Toufik Ben Aïchouch.
Ça montre encore une fois qu'il n'y a pas de véritable politique commune étrangère de la part de l'Europe, qu'il n'y a pas d'unanimité réellement, fondamentalement, je parle pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, sur la conduite à tenir face à l'Iran.
Alors, les six pays en charge du dossier nucléaire iranien n'ont pas fait mention de nouvelles sanctions ni de calendrier qui serait assorti d'ultimatum et qui pourrait être imposé aux Iraniens. C'est un nouveau sursis pour les Iraniens ou est-ce que c'est le signe, selon vous, d'une impuissance face à la Russie et à la Chine qui, je le rappelle, privilégie toujours la solution diplomatique, Dominique Lagarde ?
Eh bien, je crois que pour l'instant, les États-Unis privilégient eux aussi encore la solution diplomatique. Je crois que Barack Obama a tendu la main à l'Iran et que le moment n'est pas encore tout à fait venu pour lui de la retirer et de se lancer dans une politique de sanctions dures. C'est d'ailleurs l'objet d'un débat, pour ne pas dire plus, avec la France de Nicolas Sarkozy, qui lui est très radical.
Oui, la France prône des sanctions massives.
Alors, Nicolas Sarkozy, en tout cas, je ne suis pas sûr que le ministre des Affaires étrangères soit tout à fait sur cette longueur d'onde, mais Nicolas Sarkozy, oui, voudrait un renforcement des sanctions et il voudrait qu'on frappe l'Iran là où ça ferait mal, c'est-à-dire sur les carburants, sur l'essence, puisque vous savez que l'Iran est un pays pétrolier, certes, mais qui importe 40% de son essence, de son carburant. Il n'a pas suffisamment de raffinerie, donc il est évident que ça ferait mal. Nicolas Sarkozy est sur cette ligne-là, pour autant qu'on le sache, ça n'est pas le cas de Bernard Kouchner. Quant à Barack Obama, je crois qu'il veut donner encore du temps au temps pour essayer de trouver une solution par le dialogue, et avec un dialogue qui, dans l'esprit de Barack Obama en tout cas, ne serait pas limité au secteur nucléaire. Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels Américains et Iraniens peuvent trouver des terrains d'entente.
Pierre Rousselin, sur cette nuance entre la position de Barack Obama et celle de Nicolas Sarkozy ?
Je crois que les choses peuvent bouger très rapidement et la question va devenir très sensible à mesure que l'on va se rapprocher du 1er octobre, la semaine prochaine. On l'a vu déjà entre le Quai d'Orsay et l'Élysée, c'est pareil à Washington. Il y a certainement un débat interne à l'administration américaine. Je crois qu'on attend d'ailleurs, même pour aujourd'hui, une nouvelle déclaration sur ce sujet. Et comme d'habitude, il va y avoir une montée en puissance des déclarations des uns et des autres jusqu'au 1er octobre. Et on a déjà vu la Russie peut-être évoluer un petit peu. Donc c'est à suivre et ça va bouger.
C'est votre sentiment, Toufik Ben Aïchouch ?
En fait, il y a deux écoles. La première consiste à dire Barack Obama propose une offre de dialogue sérieuse. D'autres pays comme la France ou l'Allemagne, par exemple, sont plus absolutistes sur la question. question et voudraient encore des sanctions pour forcer l'Iran à céder et à négocier. Il y en a qui disent que bon, c'est un petit peu une répartition des rôles. Vous savez, Starsky Hutch, il y a le bon policier, puis il y a le méchant policier, et l'important, c'est le résultat. Alors, c'est vrai que menace assortie à une offre de dialogue, ça peut éventuellement convaincre les Iraniens d'être sérieux et de s'asseoir sérieusement à une table de discussion. Il y a l'autre école qui dit qu'en fait, non, la France surtout est en pointe, beaucoup plus que les États-Unis, qu'il y a une véritable course contre la montre et que Barack Obama se trompe. C'est l'histoire des événements à venir qui nous le dira.
Oui, et d'ailleurs, Barack Obama s'est longuement exprimé, hein, lui aussi. Comme prévu, il a réaffirmé sa fermeté à l'égard du programme nucléaire iranien. Et dans le même temps, il a récusé la légitimité. Alors c'est l'autre sujet en débat là-bas à New York. La légitimité de la poursuite de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. Que vous inspire cette partie israélo-palestinienne du discours du président américain Pierre Rousselin ?
Bah écoutez, force est de constater que Barack Obama n'a pas réussi à imposer un gel de la colonisation à Netanyahou et compte tenu de cet échec, eh bien, et maintenant il appelle à des négociations sur le statut final. Je ne vois pas très bien ce qu'il a gagné dans cette affaire. C'est plutôt Netanyahou qui a réussi à préserver ses positions et des négociations sur le statut final me paraissent très difficiles à envisager aujourd'hui.
Vous partagez ce point de vue, Dominique
Lagarde ? Oui, tout à fait. Je crois d'abord qu'il est toujours très difficile d'obtenir quelque chose quand on exige un préalable avant l'ouverture de négociations. Et je ne suis pas sûre que Barack Obama a eu raison de choisir, comme il l'a fait, d'exiger en préalable ce gel des colonies. Ce que je crois par ailleurs, c'est qu'il n'y aura pas à court terme de véritables négociations israélo-palestiniennes parce que personne n'y est vraiment prêt. Parce que je crois que je suis pas sûre même que Mahmoud Abbas ait vraiment très envie de récupérer Gaza. Ça va plutôt pas trop mal en Cisjordanie et je doute qu'il ait très envie de récupérer ce territoire. Netanyahou est plus préoccupé par le dossier iranien aujourd'hui que par le dossier israélo-palestinien. Et le risque, effectivement, c'est que c'est un échec diplomatique pour Obama puisque donc il s'était fixé cet objectif et que sa crédibilité risque d'en prendre un coup dans le monde arabe, et peut-être pas seulement.
Toufik Ben Aïchouch.
Mais écoutez, il faut rappeler d'abord que le gel de la colonisation il est inscrit dans la feuille de route, qui était un peu la Bible, enfin le Coran, selon le point de vue que l'on adopte. Et le gel de la colonisation était inscrit donc dans cette feuille de route. Or, on s'aperçoit maintenant, on le sait, c'est notoire, que alors même que George Bush imposait la feuille de route aux Palestiniens, aux Israéliens, il faisait une lettre à Ariel Sharon l'autorisant à continuer la colonisation. Ça fait pas sérieux. On a, comme l'a dit d'ailleurs le président Mahmoud Abbas, ou même Leïla Chahine sur notre antenne, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un pays qui édicte que la colonisation doit être gelée, qui est pas capable de l'appliquer depuis quoi, une dizaine d'années maintenant? Donc tout ça, c'est pas très... D'abord, ça incite pas à l'optimisme pour le monde arabe en général, en fait. Que vaut donc les engagements pris par les États-Unis s'ils sont pas capables de les appliquer?
Orient Presse sur RFI.
Nous sommes en compagnie de Dominique Lagarde de l'hebdomadaire L'Express, Pierre Rousselin du journal Le Figaro et Toufik Ben Aïchouch de la rédaction de RFI. Alors, le colonel Kadhafi s'est distingué lui aussi en prononçant une violente diatribe contre le Conseil de sécurité de l'ONU, dominé, dit-il, par ses 5 membres permanents et leur droit de veto, contraire, ajoute-t-il, à la charte de l'ONU qu'il a d'ailleurs fait mine de déchirer. C'est une scène spectaculaire qui n'a pas surpris, hein, Dominique Lagarde.
Non, ça fait partie du cinéma habituel.
Pierre Rousselin, que vous a inspiré cette scène spectaculaire du colonel Kadhafi ?
Oui, la même chose. Absolument pas surprenant de la part du colonel Kadhafi. Et bon, je crois que on est un peu blasé là aussi. On a l'habitude de ces pantalonnades. Voilà, point final.
Toufik Ben Aïchouch,
oui, ça fait partie du personnage. Même s'il a beau jeu de jouer sur des problèmes réels, le nombre invraisemblable de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'est pas appliqué. Donc il dit à quoi ça sert, alors finalement, qu'on soit réunis et qu'on discute et qu'on prenne la parole puisqu'il n'y a pas d'effet. Mais encore une fois, c'est vrai, Pierre a raison, c'est de la pantalonnade, quoi. Ça, c'est du cinéma.
Alors l'autre événement diplomatique cette semaine, il a eu lieu à Paris. Hein. C'était l'élection du nouveau directeur général de l'UNESCO. Alors après 5 tours de scrutin, il y en a eu 5, c'est finalement la diplomate bulgare Irina Bokova qui l'a emportée devant l'Égyptien Farouk Hosni, qui était pourtant soutenu par la France, où siège l'organisation internationale. Toufik Ben Aïchouch, vous qui avez suivi heure par heure cette élection, d'abord pourquoi l'ancien ministre égyptien de la Culture était candidat des Français ?
Parce que l'Égypte co-préside avec la France l'Union pour la Méditerranée, qui est chère à Nicolas Sarkozy, donc, parce que l'Égypte a un rôle considérable dans le Proche et dans le Moyen-Orient. Vous savez que si on veut un jour tenter de faire asseoir à la même table les frères ennemis du Hamas et du Fatah pour les Palestiniens, c'est l'Égypte qui assure une médiation. Si l'on veut un jour faire asseoir à la même table, d'une manière plus générale, Palestiniens et Israéliens, ce sera par l'Égypte que ça passera. L'Égypte est le seul pays arabe à avoir des relations diplomatiques, à avoir normalisé ses relations avec Israël. Voilà, ça faisait un candidat idéal. Je peux vous dire, moi, pour avoir assisté en partie à des tractations, que l'Égypte, puisque vous l'avez rappelé, il a fallu 5 tours pour désigner une directrice, finalement, de l'UNESCO. Eh bien, l'Égypte, au plus fort des batailles et des pressions qui se déroulaient à l'UNESCO, eh bien, a mis dans la balance, en ces termes-là, une espèce de petit chantage. Ne me demandez plus rien maintenant, si vous, pays occidentaux, si vous votez pas en ma faveur pour le dossier israélo-palestinien, pour le dossier interpalestinien, etc.
Donc, Dominique Lagarde.
Alors, moi, je suis d'accord pour dire qu'il aurait été très bien que ça soit un Égyptien, mais pas celui-là. C'est-à-dire que je considère que dans cette affaire, les Égyptiens se sont littéralement tiré une balle dans le pied. On ne présente pas, pour diriger une organisation qui est quand même censée protéger le patrimoine culturel de l'humanité, quelqu'un qui parle de brûler des livres. Alors, je veux bien que la phrase ait été sortie de son contexte, mais de toutes les façons. Et par ailleurs, je ne crois pas que ce ministre soit un très grand exemple d'ouverture. Il a pratiqué la censure. Donc voilà. Donc je crois qu'un Égyptien à la tête de l'UNESCO serait été très bien, mais le grand tort des Égyptiens, c'est d'avoir vraiment présenté un candidat pas présentable.
Vous êtes d'accord, Pierre Rousselin ?
Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas... Je n'ai rien contre la Bulgare, mais je trouve que c'est dommage qu'effectivement, que ce ne soit pas un Égyptien, que ce ne soit pas un représentant du monde arabe. C'est très dommage, mais ce candidat-là, vu les propos qu'il avait tenus, même si c'était dans un contexte très précis, etc., mais compte tenu de la polémique qui s'était déclenchée, évidemment, ne pouvait pas être élu. Et c'est une bonne chose qu'il n'ait pas été élu. Mais c'est très dommage que ce ne soit pas un Égyptien ou un autre représentant du monde arabe.
Alors, on vient de le dire, hein, Farouk Hosni était soutenu par Paris, Toufik Ben Aïchouch nous a dit pourquoi, bien qu'il n'était pas le candidat de l'Europe, hein, Toufik Ben Aïchouch. Hein.
Non, parce qu'on a pu voir lors des 5 tours, des 5 scrutins nécessaires pour désigner une directrice générale de l'UNESCO, on a pu voir en fait une espèce de ligne de fracture qu'on avait revue d'ailleurs, grosso modo, lors de l'annonce et des préparatifs de la création de l'Union pour la Méditerranée. Souvenez-vous, Angela Merkel était un petit peu goguenarde à l'époque sur l'idée de Nicolas Sarkozy en disant « mais pourquoi pas faire alors une union pour les pays de la mer Baltique, etc. » Ceci pour dire que, par exemple, l'Allemagne n'a pas voté Farouk Hosni. Dans les coulisses, on murmurait, par exemple, que le représentant italien a dû expliquer à ses amis du Conseil, donc, qu'il avait reçu un coup de téléphone de Berlusconi, l'obligeant à voter en faveur du candidat de l'Égypte. Le Portugal n'a pas voté en faveur du candidat égyptien. Le Brésil également. Donc, beaucoup de pays du Sud également. Si vous voulez, c'est vrai, l'Égypte contenait sa propre défaite en présentant ce candidat. Je voudrais juste rappeler que, à titre d'exemple, Farouk Hosni, ministre de la Culture depuis une vingtaine d'années, eh bien, c'est lui qui avait interdit l'édition du Da Vinci Code, par exemple, en Égypte. Donc, on présentait un censeur. Le résultat, c'est vrai, c'est que les pays du Sud, aujourd'hui, et même en Égypte, même ceux qui ne sont pas favorables à Farouk Hosni, eh bien, regrettent et disent, encore une fois, c'est quelqu'un du Nord qui a été nommé, et non pas quelqu'un du Sud.
Dominique Lagarde.
Oui, je crois que c'est vrai. Et ce qui est quand même très dommage, c'est qu'il y a en Égypte et dans le monde arabe beaucoup de personnalités fortes, brillantes, ouvertes, qui auraient très bien pu remplir ce rôle. Là, c'est vraiment... Enfin, les Égyptiens sont responsables de cette défaite.
Sur encore une fois, les voix discordantes parmi les membres de l'Union européenne, un commentaire, Pierre Rousselin ?
C'est pas nouveau non plus qu'il y ait des voix discordantes au sein de l'Union européenne. J'allais dire que ça faisait le charme de l'Union européenne. C'est peut-être un peu sarcastique ce que je dis, mais bon, c'est pas nouveau. Il faut vivre avec.
Alors, la défaite du candidat égyptien a été mal vécue. On va le voir de l'autre côté, en Égypte, hein, où on dénonce une politisation du scrutin orchestré par, je cite, hein, un lobby juif, Toufik Ben Aïchouch.
Traditionnellement, dans les sociétés du Proche-Orient en général, quand il y a un problème, on a tendance aussi à toujours accuser l'autre, et en l'occurrence Israël et son influence réelle ou supposée dans ce genre de décision politique. Mais ça n'explique pas tout. Encore une fois, c'est l'Égypte qui avait présenté un mauvais candidat pour beaucoup de raisons. Ceci dit, du côté israélien, il faut remarquer qu'Israël ne s'était plus opposé à la candidature de Farouk Hosni, en tout cas officiellement. Bah, il s'est trouvé, vous connaissez l'histoire, qu'il y a eu des voix juives en France, par exemple.
Et notamment celle de
Weil, oui. Bernard-Henri Lévy, l'historien israélien qui a fait un film sur la Shoah. Tous ces gens-là se sont élevés, ont écrit des tribunes et tout. Mais encore une fois, Farouk Hosni avait donné les verges pour se faire battre.
Alors Farouk Hosni avait pourtant l'appui, vous venez de le dire, de plusieurs personnalités juives de renom, telles que Serge Klarsfeld, le célèbre chasseur de nazis, et pourtant rien n'y a fait. L'Égypte, comme vous venez de le dire, s'était tiré une balle dans le pied en choisissant son ancien ministre de la Culture. Alors, maintenant on va voir, hein, si est-ce que vous allez me dire ce que vous en pensez, est-ce que cette élection peut avoir des conséquences diplomatiques régionales? Je pense notamment à la difficile mise en œuvre de l'Union pour la Méditerranée, Dominique Lagarde.
Oui, mais je crois que l'Union pour la Méditerranée, elle est de toutes les façons très mal partie, avec ou sans cette affaire-là. Il faut quand même se souvenir que le processus de Barcelone a achoppé sur l'incapacité des Arabes et des Israéliens de trouver un accord politique, et qu'on ne voit pas pourquoi tout d'un coup, parce que c'est Sarkozy et que ça s'appelle l'Union pour la Méditerranée, ces problèmes-là pourraient être mis sous le tapis. Je veux dire que je crois que le moment n'est pas mûr. C'est bien d'essayer d'avancer avec des propositions concrètes, des propositions de co-développement, lutte contre la pollution et autres. Mais il faut bien se dire qu'une vraie avancée politique et diplomatique n'est pas devant nous.
Toufik Benachouche.
Si vous voulez, une des conséquences de la création de l'Union pour la Méditerranée aurait été théoriquement que tous ces pays-là, donc riverains de cette mer, discutent et s'assoient à une même table. Ce qui signifierait, entre autres, que tous ces pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël, d'une manière ou d'une autre, reconnaîtraient ainsi l'État israélien. Il y a des pays arabes, évidemment, il y a notamment la Syrie, il y a le Liban, pour ne citer que cela, il y a tout le Maghreb, bref. Ce qui reviendrait à demander à ces pays, donc, de reconnaître, d'une manière un peu détournée, Israël. Or, ces pays refusent, et ils disent que Israël doit d'abord faire des concessions, s'asseoir, enfin, vraiment développer l'Union pour la Méditerranée reviendrait à faire un cadeau gratuit, sans aucune contrepartie, à l'État d'Israël. Et ces pays-là sont pas prêts à l'accepter. Donc l'Union pour la Méditerranée...
Et pour les mêmes raisons, Barcelone.
Et pour la même raison, Barcelone. Pierre Rousselin, c'est votre avis aussi?
Oui, bien sûr, mais bon, il faut essayer, et peut-être que on y arrivera. Tous ces constats sont exacts, mais je crois que c'est une entreprise qui mérite d'être poursuivie. Peut-être que en étant moins ambitieux, on peut peut-être quand même faire avancer quelques dossiers de l'Union pour la Méditerranée.
J'ai une dépêche là sous les yeux qui m'informe que l'Iran a informé l'Agence internationale de l'énergie atomique. On revient à l'Iran. Hein. C'est une information importante. Téhéran informe qu'elle dispose d'une seconde usine d'enrichissement de l'uranium. C'est ce qu'on apprend de sources diplomatiques à Vienne. Dominique Lagarde, c'est pas une surprise?
Alors, ça n'est pas très surprenant pour les experts, parce qu'en réalité, effectivement, l'existence d'une deuxième usine d'enrichissement était soupçonnée depuis assez longtemps. On sait que les Iraniens ont acquis d'abord des centrifugeuses de première génération auprès des Pakistanais, puis à la fin des années 90... des centrifugeuses plus modernes, plus efficaces, si je puis dire. Et ces centrifugeuses-là n'étaient pas à Natanz, l'usine que l'on connaissait jusqu'ici. Donc la plupart des experts pensaient qu'il y avait effectivement une autre usine.
Toufik Benachouche.
Écoutez, hier, les Moudjahidines du peuple, qui sont l'opposition armée à l'extérieur de l'Iran, aujourd'hui, révélaient qu'il existait deux centres inconnus jusqu'à présent. L'un situé à Téhéran même, camouflé dans un bâtiment, dans un quartier populeux, et l'autre aux alentours de Téhéran, deux centres exclusivement destinés à étudier les moyens de mettre au point un procédé pour faire exploser une bombe atomique. Bon, les Moudjahidines du peuple, ils sont beaucoup critiqués aussi, mais c'est en partie à eux que l'on doit la révélation de l'existence d'un programme nucléaire militaire iranien. En tout cas, les Moudjahidines du peuple ont donné tous les documents à l'AIEA, l'Agence pour l'énergie atomique, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, et demande donc aux inspecteurs d'enquêter le plus vite possible. Ce qui jette encore des suspicions beaucoup plus fortes donc sur la volonté réelle des dirigeants iraniens.
Pierre Rousselin, sur cette deuxième usine qu'on annonce aujourd'hui à Vienne.
Oui, je crois que ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir quelques rebondissements autour de l'Iran, de son programme, et des déclarations d'Obama, de Sarkozy, pour faire monter mettez un peu la pression sur l'Iran. Je pense que le fait que l'Iran reconnaisse l'existence de cette deuxième usine est une manière pour eux d'essayer de contrer cette montée en puissance qui est imminente.
Et en même temps, l'Iran proposerait désormais une rencontre entre des experts nucléaires étrangers et iraniens. Et c'est un geste qui, hier, à New York, a été jugé encourageant par plusieurs experts, Dominique Lagarde.
Alors, c'est un geste, mais c'est peut-être aussi simplement pour gagner du temps. Ce qui est clair, c'est qu'il y a, on va voir maintenant ce qui va se passer dans les toutes prochaines semaines. Il y a la deadline, effectivement, la date butoir du 1er octobre, mais il y a aussi celle de fin décembre qui avait été évoquée par les Israéliens. Il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a aussi, on ne peut pas exclure complètement des frappes israéliennes en début d'année prochaine. Donc il va y avoir effectivement toutes ces... on va assister, comme dit Pierre Mousselin, je suis d'accord avec lui, à toutes sortes de rebondissements dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Maintenant, rien n'est exclu. Je veux dire qu'on peut aussi... Les Iraniens ont, au jour d'aujourd'hui, suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer une bombe. Il est clair qu'ils poursuivent également leurs recherches pour fabriquer des explosifs. Cet uranium n'est pas encore, à ce stade, enrichi de manière telle qu'il soit de qualité militaire. Mais sauf que le passage de ce qu'ils ont actuellement à un uranium de qualité militaire serait très simple et très rapide. Donc toute la question, elle est de savoir si les Iraniens vont, pendant un certain temps au moins, s'arrêter au seuil et ne pas donc violer véritablement le traité, le TNP dont ils sont membres, ou bien s'ils vont aller au-delà et passer, comme ont fait les Nord-Coréens, à ce moment-là, à se mettre en dehors de ce traité, avec ce que ça induirait comme réaction de la part des Occidentaux.
Tufik Benechouche.
Écoutez, ça dépendra également, bien sûr, de l'attitude de l'Iran, de ce qu'ils sont prêts à faire ou à ne pas faire, mais ça dépendra aussi, je pense, de l'offre américaine. Le problème de l'Iran, c'est que c'est un pays, actuellement, quand on regarde la carte, qui est entouré par l'armée américaine, en un mot, hein, en Irak, en Afghanistan au nord, au sud, avec des bases militaires en Arabie Saoudite, au Koweït. Donc c'est un pays, si vous voulez, à tort ou à raison, qui a l'impression d'être encerclé, d'être en danger continuellement. Et ce qui explique en partie, si vous voulez, cette course, si elle est réelle, donc, à l'arme nucléaire. Ça dépend si l'Iran obtient des garanties qui ne soient pas menacées, des garanties sérieuses, peut-être sous forme de traités, sous forme d'arrangements, etc. Peut-être qu'on peut trouver une solution. Mais ça dépendra, encore une fois, de ce que aussi le monde occidental mettra sur la table.
Vous trois, vous croyez que Israël prendrait le risque d'attaquer l'Iran sans l'aval des États-Unis, Tufik Benechouche?
Si on écoute le discours des dirigeants politiques israéliens, c'est pas à exclure complètement. Ils l'ont déjà fait. Ils ont bombardé donc les centrales de Tabriz en Irak, etc. C'est vrai probablement avec l'aval des forces américaines. Mais là, vous savez, les Américains peuvent très bien dire aussi en sous-main, écoutez, si on échoue par la voie du dialogue, allez-y, on verra, c'est ce que l'avenir nous le dira. Mais pour Israël, il est très déterminé de toute façon. Israël aussi a les capacités militaires, tactiques, de réaliser ces bombardements. Alors ce sera compliqué et difficile, c'est vrai, il y a encore des choses à mettre au point, notamment parce que il faut survoler des espaces aériens comme celui de l'Arabie Saoudite ou de l'Irak. Techniquement aussi, il y a des choses à arranger, notamment en ravitaillement, en carburant, etc. Mais c'est une opération possible et les dirigeants israéliens sont déterminés. Mais je crois encore que ça fait partie, si vous voulez, d'un scénario où, encore une fois, il y a les bons et les méchants, mais les bons et les méchants sont peut-être pas d'accord sur tout, mais d'accord sur le même objectif, arriver à faire reculer l'Iran sur ce point.
Pierre Rousselin.
Oui, je pense que tout est possible, mais pas forcément le pire, c'est-à-dire que les Israéliens feront tout ce qu'ils pourront pour éviter effectivement que l'Iran parvienne à ce seuil fatidique. C'est pas forcément en bombardant Téhéran, c'est peut-être par des actions plus ponctuelles, mais on peut pas spéculer à ce stade-ci.
Dominique Lagarde.
Moi, j'espère rien non plus de la part des Israéliens, mais ça serait pas un bombardement sur Téhéran, bien sûr, ça serait une opération comme il y en a eu déjà dans le passé, qui serait d'ailleurs dévastatrice sur le plan politique et probablement assez inefficace sur le plan militaire, malheureusement.
Tufik, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, le problème pour ce genre d'opération, c'est qu'il faut il faut taper en une fois, si vous voulez, et il faut taper aux bons endroits, au pluriel. Et c'est assez compliqué, puisqu'il y a des centres qui sont de recherche, disséminés dans des zones urbaines, etc.
Alors, il y a un thème qui est passé presque... On n'en a pas parlé pendant cette Assemblée Générale de l'ONU. Peut-être il en sera question demain ou après-demain. La situation en Afghanistan. Comment expliquez-vous que cette guerre n'ait pas été évoqué ces derniers jours en marge de l'Assemblée Générale et pendant l'Assemblée Générale?
Je crois que parce que c'est une guerre qui concerne quand même principalement, en tout cas en ce qui concerne ceux qui la font, les pays occidentaux, les pays de l'OTAN, on est aussi dans une phase de révision de la stratégie américaine. Barack Obama a reçu plusieurs rapports de ses généraux et du Pentagone. Il doit prendre des décisions. Certains des généraux lui demandent de renforcer encore la présence américaine. D'autres, au contraire, prônent une politique qui viserait d'abord Al-Qaïda et qui s'intéresserait de moins près à l'évolution afghane, des talibans. Bon, mais on est vraiment dans une phase de remise à plat aux États-Unis sur la stratégie en Afghanistan. Donc ceci explique peut-être cela.
Mais Dominique a raison. Il faut qu'il définisse une nouvelle stratégie et Barack Obama est gêné aux entournures, notamment avec la pression des généraux américains. Mais il y a autre chose. Il y a Hamid Karzai, par exemple, le président afghan, a renoncé à se rendre aux Nations Unies pour prononcer un discours. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que c'est toujours un pays actuellement sans président. Enfin, avec un président en suspens, puisque la question du vote n'est pas toujours réglée.
Pierre Rousselin, un mot sur l'absence du sujet afghan à l'ONU.
Oui, c'était très frappant que Barack Obama ne parle même pas d'Afghanistan, alors que c'est au cœur de sa politique, de la lutte des États-Unis contre le terrorisme, etc., etc. Donc cette absence était significative et montrait jusqu'à quel point l'embarras est grand à Washington, où on vient de recevoir donc ce rapport du général McChrystal qui demande plus de troupes, et je crois que entre le Pentagone, la Maison Blanche, etc., personne ne sait exactement comment répondre à ce rapport qui remet en question la stratégie de l'OTAN en Afghanistan.
Oui, voilà, et donc cet événement presque inédit, hein, une guerre dont on n'a pas parlé à l'Assemblée Générale de l'ONU. Ainsi s'achève Orient Presse. Merci à vous trois, Dominique Lagarde de l'hebdomadaire L'Express, Pierre Rousselin du Figaro et Toufik Benaïchouch de la rédaction des RFI. Merci à Jean Legrand pour la réalisation, à Fabien Mignoret pour la technique. Prochain rendez-vous avec Orient Presse, samedi prochain, même heure, même fréquence sur RFI.